de route.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, la rétrospective de l'actualité de la semaine, une actualité qui a de nouveau été très politique. À l'Assemblée nationale, ça a été complètement la fièvre, hein, puisque La République En Marche a beaucoup pris et a laissé peu à l'opposition. Contrairement aux usages, on s'est emporté, on est monté sur les grands chevaux, on a eu des mots. Alors en matière politique, il y a eu quand même 3-4 événements cette semaine. Jean-Pierre Raffarin d'abord, qui arrête la politique élective, a-t-il dit, renonçant à terminer son mandat de sénateur. Il va créer une organisation non gouvernementale internationale dédiée à la paix. On a eu Manuel Valls qui annonce qu'il quitte l'EPS, lui qui a eu le plus grand mal à être réélu député de l'Essonne. Je quitte le Parti Socialiste et il rejoint La République En Marche. Enfin, il sera apparenté puisqu'on ne veut pas non plus vraiment de lui au sein de La République En Marche. On a eu aussi cette semaine la photo, le portrait officiel d'Emmanuel Macron. Alors, il a voulu nous dire beaucoup de choses, le chef de l'État. Il est connecté et doublement puisqu'il y a 2 smartphones sur son bureau. Il y a aussi des livres, dont un livre ouvert. Alors, nouvelle génération, ancienne génération, il fait le lien entre les époques. La fenêtre est ouverte sur le jardin de l'Elysée, Open Society. Le chef de l'État est encadré par 2 drapeaux, un français, un européen, et ça c'est particulièrement inédit. Et puis la posture, il est debout et en même temps, il est un peu assis sur le bureau, les 2 mains ancrées solidement sur celui-ci. Ce portrait officiel, on le trouvera dans toutes les mairies de France prochainement. Emmanuel Macron qui a invité Donald Trump pour le 14 juillet, et celui-ci a accepté. Le chef de l'État américain participera à la cérémonie qui verra des GIs défiler sur les Champs-Élysées pour commémorer les 100 ans de l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale aux côtés de la France en 1917. On a eu aussi cette semaine le premier couac du gouvernement, le nouveau ministre de l'Agriculture Stéphane Travert qui proposait de lever l'interdiction des insecticides de la famille des néonicotinoïdes, les tueurs d'abeilles, car il n'y a pas, dit-il, de produits de substitution plus acceptables pour les cultures. Alors il s'est attiré immédiatement de nombreuses foudres, dont celle de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique. Le Premier ministre Édouard Philippe a tranché, il confirme l'interdiction de ces insecticides dits tueurs d'abeilles à partir de septembre 2018. On a assisté cette semaine aussi à une scène surréaliste. On a eu le porte-parole du gouvernement qui a demandé à la presse de ne pas chercher à affaiblir la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, parce que, bon, elle doit défendre la réforme du travail et que c'est un texte important, alors que cette semaine, la presse révélait que cette ministre a validé des dépenses publiques irrégulières d'organisation d'une soirée à Las Vegas où Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait rencontré des dirigeants de start-up françaises. Contre la loi travail, justement, le premier rendez-vous est déjà donné dans la rue le 12 septembre à l'appel de la CGT. Ce projet de réforme est pire que la précédente loi travail, affirme le syndicat. Facebook qui écrase la concurrence, 2 milliards de profils actifs sur le réseau social. La barre vient d'être franchie, 2 milliards de personnes qui se connectent au moins une fois par mois. Voilà pour cette rétrospective, merci de nous avoir choisi, passez un bel été avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
RVE 103.7 avec la météo avant de retrouver le sport. Météo pluvieuse cet après-midi avec de gros passages nuageux tout au long de cette journée. Les températures sont actuellement de 13 à 14 degrés. On ne devrait pas dépasser cet après-midi, malgré quelques belles éclaircies, les températures de 20 à 21.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnut.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver hein, pour cette dernière émission de la saison. Alors, on a décidé de la délocaliser, hein, puis d'enregistrer exceptionnellement ce rendez-vous. Alors, je vais d'abord saluer celui qui va nous parler du Tour de France. Hein. C'est l'événement sportif de cet été. Arnaud, qui est avec nous, Arnaud Neveu. Arnaud, bonjour. Le Tour, donc, qui se lance aujourd'hui sur Düsseldorf.
Oui, un départ délocalisé en Allemagne pour cette nouvelle édition. Donc, ça promet d'être animé cette année, notamment en montagne avec les 4-5 favoris. Et ça risque de donner trois semaines de compétition à très haut niveau.
Alors donc on va naturellement en parler au tout début. Puis je suis ravi de parler de ballon ovale. D'abord de celui qui a laissé la bataille politique de côté pour retrouver les joies du ballon ovale, c'est Gilles Schmitt. Salut Gilles, ça va?
Bonjour, salut, ça va très bien.
C'est plus dur une bataille politique ou un match de rugby?
C'est pas plus dur, c'est pas les mêmes coups.
Très bien. Et puis le président de la section rugby de Rambouillet, Christian Edmond. Christian, bonjour.
Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. On va essayer d'être un peu constructif et que les auditeurs soient ravis de nous entendre.
Très bien. Alors, je l'ai dit, on va commencer par le Tour de France. Hein, ça sera l'événement l'été. Vous allez le suivre, Gilles, parce que c'est vrai que l'été, pendant trois semaines, on ne parle que du Tour de France.
Hein. Moi, d'abord, je suis un fanat du Tour de France. Et au-delà de l'événement sportif, c'est d'abord un souvenir très personnel, parce que c'est mon grand-père. C'est les Pingeons, les Merckx, les Poulies d'Or, les étapes mythiques. Donc, c'est avant tout un souvenir d'enfance. Et puis, maintenant, en vieillissant, c'est aussi un souvenir de... Enfin, c'est surtout une très belle compétition. Et puis, j'ai eu la chance de passer quelques années de ma vie à Briançon, Montgenèvre et Vars. Donc, pour tous les amateurs de cyclisme...
L'Izoard qui est pas loin. Hein.
Et l'Izoard qui est pas loin, le Galibier. Donc, j'ai eu la chance de voir les Indourennes, les Outelmecs descendre le col, les arrivées par Turin. Donc, amoureux du Tour de France.
Et puis, en tant que maire adjoint de Rambouillet, on se rappelle de cette dernière étape en 2012 hein, sur Rambouillet. Ça avait été un énorme succès. 40 000 personnes qui étaient venues dans les rues de Rambouillet.
C'était à la fois un énorme succès pour différentes raisons. D'abord, un énorme succès sportif. Un énorme succès aussi sur un plan touristique parce que c'est une des rares étapes d'ailleurs. Je crois même qu'il y en a deux. La dernière étape en fait partie, qui est retransmise du début à la fin et en Mondiovision. Donc, c'était à la fois sur un plan, bien sûr, média, une réussite totale. Et puis, sur un plan aussi, chose que j'ai découvert, sur un plan logistique, 5000 personnes, des réservations d'hôtels à plus de 150 km. Enfin, toute une logistique à la fois technique, les médias, le sportif. Et puis, avec aussi un petit clin d'œil, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les Mérinos de la Bergerie.
Le tour était parti une minute en retard hein, par rapport à l'horaire officiel avec les Mérinos. Hein.
Voilà. Et les Mérinos qui sont partis dans le mauvais sens, oui. Qui se retrouvaient face aux cyclistes. Et je me demande qui n'a pas été le plus surpris, les Mérinos face au peloton ou le peloton face aux Mérinos. Pendant ça restera à tout point de vue une super journée et un très beau souvenir.
C'est vrai, ce sont des images qu'on fait le tour du monde entier. Christian, le vélo, ça va vous intéresser? Ça va être votre feuilleton l'été aussi?
Non, pas vraiment. Je travaille. Donc, ça sera peut-être les résumés de fin de soirée. Voilà, j'en suis désolé.
Alors, Arnaud, comment se présente ce Tour de France 2017? Est-ce qu'on va quand même un peu mieux s'enthousiasmer qu'en 2015-2016, où on est quand même resté plutôt sur notre faim?
Bah écoutez, je suis assez mitigé sur la question dans le sens où ça va être un tour qui va être moins grimpant que d'habitude. Il y a 6 coureurs qui arrivent pour jouer la gagne. Il y a Christopher Froome comme toujours, mais qui est selon moi moins fort que les années précédentes. Il y a Contador qui est sur la fin, qui dispute d'ailleurs sa dernière compétition. Quintana et Thibaut Pinot qui ont fait le Giro il y a quelques semaines. Donc ça risque de montrer un état de fatigue assez particulier. On a le Romain Bardet, le Français, qui est aujourd'hui peut-être le Français le plus fort et le plus à même de gagner ce tour-là. Et enfin, celui qui peut-être peut dégager son épingle du jeu, c'est Richie Porte, qui risque de jouer la gagne. Donc ça risque de se jouer que Christopher Froome, qui a annoncé Richie Porte comme son principal rival pour cette année. Donc c'est un tour qui risque... J'ai bien peur dans certaines étapes d'être ennuyant, je le souhaite pas, mais on a souvent vu sur le tour que les leaders avaient du mal à attaquer, comme Quintana face à Christopher Froome sur les 2-3 dernières années. Espérons que cette année, ça ne soit pas la même chose.
En tout cas, nous, on sera sur cette dernière étape. Hein. On vous la fera vivre hein, à travers une émission spéciale depuis Montgeron. Juste un petit mot quand même, il n'y a pas d'équipe qui écrase la compétition, hein, les Sky comme les années précédentes, donc ça peut être quand même un peu plus intéressant.
Je sais pas, dans le sens où encore une fois les équipes vont arriver fatiguées sur cette compétition là effectivement AG2R, donc l'équipe française qui risque de mieux représenter le drapeau tricolore au Tour de France va arriver plus forte que d'habitude donc voilà, on risque d'avoir un combat principalement entre les Sky et les AG2R et encore une fois l'équipe de Richie Porte qui va tout faire pour mettre l'Australien pour la première fois sur la plus haute marge d'un grand tour.
Très bien, rendez-vous en tout cas le 23 juillet, hein, on en reparlera, on l'a dit, à travers cette émission depuis Montgeron. Un petit mot sur l'Open de France de golf, qui est quand même le Roland-Garros du golf, hein, et qui se déroule ce week-end.
Alors l'Open de France, oui, c'est un des 8 Rolex Series, donc c'est un des 8 plus gros tournois de l'European Tour. Ça a débuté jeudi, les golfeurs sont pas gâtés par la météo, c'est le cas de le dire. Après, les Français, encore une fois, on pense à Alexander Lévy qui, sur les deux premiers jours de compétition, part très bien. Victor Dubuisson, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est une compétition au golf de Saint-Quentin, pas très loin de Rambouillet, de Vieille-Église-en-Yvelines, qui part bien. Mais fin de la compétition ce soir, ce dimanche. Donc, espérons qu'un Français puisse gagner, mais ça risque d'être compliqué là aussi.
Et un an avant la Ryder Cup, hein, rendez-vous alors, ô combien attendu.
Alors cette semaine, jeudi, Laura Flessel, ministre des Sports, est venue au golf de Guyancourt. Il y avait Richard Hiss, le président Europe de la Ryder Cup. Il y avait Jean-Loup Charon, le président de la Fédé de Golf. Ils sont venus signer un décret environnemental avec le WWF France pour assurer que la Ryder Cup respecterait bien les engagements éco-responsables, si je dis pas de bêtises, sur l'intitulé. Donc c'est un engagement signé par toutes les grandes compétitions aujourd'hui, c'est presque obligatoire. Après la Ryder Cup, c'est un événement qui va attirer les yeux, qui va peut-être mettre la lumière sur le golf, qui est un sport après tout très peu médiatisé. Donc ça risque d'être intéressant, et c'est du 28 au 30 septembre 2018 à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Voilà, le rendez-vous donc est pris. Allez, on va parler de ballon ovale comme prévu avec donc Christian Edmond. Christian, le bilan de cette saison, on en parlait un tout petit peu avant ce rendez-vous en off. Bilan finalement satisfaisant. Vous êtes un président content?
Oui, tout à fait. 275 licenciés cette année. Une belle école de rugby, plus d'une centaine d'enfants de moins de 14 ans. Une équipe de moins de 16 ans, une équipe de moins de 18 et puis deux équipes seniors, quelques vétérans et joueurs débutants qui pratiquent le 5 et puis une certaine satisfaction avec la création d'une équipe féminine moins de 18 ans engagée en compétition. Donc c'était un engagement que j'avais pris avec les dirigeants et certaines de ces jeunes filles de les engager en compétition, ce qu'on a fait. Et donc ça, c'est une certaine satisfaction. Un petit bilan, c'est vrai que nos jeunes ont été extrêmement performants puisque l'équipe de Rambouillet de moins de 14 ans est vice-championne d'Île-de-France. Donc c'est à souligner, hein, dans une carrière de joueur de rugbyman. Je pense que les 23 qui étaient là ce jour-là sont... On passait une excellente matinée. Mon équipe de U12 est aussi championne des Yvelines, donc là aussi à noter. Et puis sur les plus jeunes, les 8 et 10 ans, de belles prestations tout au long de l'année avec quelques victoires assez intéressantes. Voilà pour ce qui était pour l'école de rugby. Après, au niveau de mon équipe de moins de 16 ans, elle aussi qui fait une excellente parcours en poule puisqu'elle finit invaincue de la saison sur la partie poule. Non qualificatif championnat de France, donc là c'est le petit regret. Et puis après, donc en qualification Île-de-France, elle se fait éliminer en quart de finale. Un peu difficile pour ces jeunes joueurs d'avoir fait simplement 3 tours de championnat Île-de-France. On était un peu câblé pour aller jusqu'au bout. Comme souvent dans les matchs à élimination directe, ça a été la déception. Et puis pour terminer, mes moins de 18 ans, là aussi une belle satisfaction, un parcours en poule un peu plus compliqué, puisqu'on était sur un groupe un petit peu plus restreint en termes de quantité de joueurs, mais qui fait elle aussi un beau parcours et qui termine en demi-finale de la Coupe d'Île-de-France, là aussi, donc quelque part de belles satisfactions pour tous ces jeunes joueurs. Oui. Et puis au niveau senior, deux équipes engagées, elles finissent au milieu de tableau, on est en pleine reconstruction vis-à-vis de la descente que nous avons effectuée en début de saison, donc voilà, le bilan est quand même assez satisfaisant et je tiens à signaler que j'ai une énorme équipe autour de moi, des éducateurs engagés et qui font un travail formidable, et puis un secrétariat et des bénévoles, donc voilà, je tiens à les remercier pour cette année.
Alors en début de saison, j'étais parmi les objectifs tout ça, ou alors c'est mieux que ce que vous pensiez?
Je pense que c'était des objectifs que chacun en tant qu'éducateur et dirigeant on se donne, et on va aller le plus loin possible. Les choses sont arrivées les unes après les autres, hein. C'est vrai que le parcours de notre équipe U14 est assez impressionnant puisque elles ont joué plus de matchs que notre équipe senior si on fait le bilan cette année. Donc et elles ont gagné plus de matchs. Donc et avec le résultat final qu'on connaît, vice-champion d'Île-de-France. Donc au fur et à mesure des week-ends et des mois qui passent, les objectifs inconsciemment ils se mettent en place. Et également pour l'équipe U16, si on fait le démarrage, le démarrage était extrêmement chaotique, hein, trois matchs, deux défaites, et au final on passe invaincu de la phase qualificative Île-de-France. Donc voilà, on peut pas dire après ces trois premiers matchs de brassage, ce qu'on appelle le brassage au niveau Île-de-France, le bilan, on démarre en disant bon qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, et au final voilà, on c'était l'objectif, il est venu match après match. L'objectif c'était d'être champion, on s'est éliminé en quart, mais Voilà. Donc non, des objectifs en début de saison, c'est sur les jeunes, c'est extrêmement difficile. On veut tous, voilà, aller le plus loin possible, qu'on passe des matchs et des week-ends hyper agréables, que les joueurs progressent, puisque le but du club aujourd'hui, c'est vraiment la formation, que à la fois individuelle, sur les valeurs, les fameuses valeurs rugbystiques, mais que ces groupes d'enfants, à travers leur pratique, deviennent des hommes, tout simplement. Donc ça passe aussi par la victoire.
Bien sûr. Alors, ce qui est plutôt bon signe, c'est que ces jeunes-là, c'est une pépinière pour l'avenir, c'est facile de les garder.
Alors, c'est l'objectif du club, c'est-à-dire que géographiquement, le Sud-Yvelines est un peu dépouillé en termes de club, on n'est que trois, Rambouillet, Chevreuse et Montfort-l'Amaury, donc l'objectif c'est de former les joueurs pour que ceux qui sont à même de vouloir pratiquer le plus haut niveau de compétition senior restent avec nous, et c'est l'objectif. L'objectif c'est voilà, c'est que toutes les générations, on est au moins 5, entre 4 et 5 joueurs qui soient équipiers premiers pour que le renouvellement générationnel des seniors, puisqu'après ils ont entre 15 et 20 ans peut-être de pratique rugbystique, donc qui nous accompagnent et qu'ils soient accompagnés pour les faire avec nous. Mais les aléas de la vie des jeunes étudiants, on sait tous que voilà, les études, la vie professionnelle fait que de facto, un certain nombre partiront de la région. Donc voilà, on table sur 5 joueurs tous les ans qui intègrent le groupe senior. C'est l'objectif qu'on essaie de coller au plus près. L'année dernière, ils étaient 6, cette année, ils seront 4. Donc je vous laisse faire la moyenne.
Voilà. Et donc pour l'an prochain, alors l'ambition ?
L'ambition, c'est d'avoir une équipe senior compétitive. Là, on finit 5e du milieu de tableau. Les résultats sont un peu en trompe-l'œil, puisqu'on a quelques points de bonus défensifs, donc qui dit des points de bonus défensifs, c'est que c'est des victoires un peu étriquées, donc faire le cap que ces défaites deviennent des victoires pour être dans les trois premiers qui permettent d'être qualifiés pour le championnat de France et après d'avoir un parcours de championnat de France le plus honorifique possible. La montée n'est pas un objectif en soi, quantitativement on est un peu juste en termes d'effectifs, donc on a passé 3 ou 4 années en honneur avec un effectif du même acabit, et on sait que c'était extrêmement compliqué pour faire toutes les rencontres. Donc je pense que l'objectif c'est que les garçons reprennent du plaisir à jouer ensemble, à faire du ce qu'on appelle du beau jeu, et je pense que les victoires arriveront d'elles-mêmes. Voilà. L'objectif c'est que ce groupe senior prenne du plaisir à être ensemble et à jouer ensemble, voilà, tout simplement.
Christian, c'est une question qu'on pousse souvent. C'est facile de gérer un club de rugby dans une région de foot, finalement, parce que Rambouillet, Chevreuse, il n'y a que ça, hein.
Oui, gérer une association, je pense que tous les présidents qui sont à l'écoute, ou les secrétaires, les trésoriers, la difficulté, elle est pas, je pense, essentiellement dans la gestion de la structure. C'est vraiment d'avoir des objectifs de club, tout simplement. C'est de ne pas se tromper d'objectifs et d'arriver à maintenir les objectifs qu'on peut se donner. Donc, ils peuvent être à géométrie variable, mais les structures présentes aujourd'hui, elles sont trois, comme je l'ai dit précédemment. Géographiquement, on est correctement positionné, donc on rayonne tous sur nos bassins de population, donc on doit être amené. C'est intéressant la question que tu me poses, parce que je lisais hier soir, on a reçu une étude de la FFR concernant notre géolocalisation de nos adhérents de moins de 19 ans versus le nombre de jeunes garçons et de jeunes filles de moins de 19 ans. Et donc les ratios sont assez intéressants. On peut travailler sur voilà, aujourd'hui, bon, le chef c'était erroné, mais il y a 180 peut-être jeunes à Orsemont, il n'y a que 6 rugbyman. Donc on est sur un ratio, si on prend le pourcentage, il est intéressant, entre guillemets. Par contre, quid des 170 autres enfants qui aujourd'hui font sûrement d'autres pratiques, mais surtout ceux qui ne font pas de pratiques. Donc ça, c'est de travailler sur des statistiques qui permettent peut-être de faire en sorte de flécher des enfants vers les structures sportives, parce que quand on voit le nombre d'enfants qui ont moins de 18 ans, qui est plus de 30 000 sur le secteur rambouillétain, il n'y a pas 30 000 enfants et préadolescents aujourd'hui dans les structures sportives, donc il y a encore du travail. Donc,
oui, voilà. Puis il y a le Rénoir à côté, par
exemple. Oui, tout à fait, il y a le Rénoir, mais les structures, elles existent tout autant. Le premier club de rugby aujourd'hui en Eure-et-Loir, c'est Nogent-le-Roi, après c'est Chartres de l'autre côté. Donc il y a des zones, entre guillemets, si on peut faire le parallèle avec la téléphonie, il y a des zones blanches. Donc il y a des kilomètres pour faire une structure, mais les structures existent. Donc comment ramener ces jeunes joueurs, ces jeunes adolescents à pratiquer un sport? Voilà, C'est des chantiers qu'il faut qu'on mette en œuvre pour que nos clubs soient à la fois accueillants mais, et que nos pratiques soient d'un certain niveau de compétition intéressant. Après, on peut pas non plus accueillir, je fais le parallèle, ça fait 10 ans maintenant avec la Coupe du Monde qu'il y avait eu en 2007.
Oui, il y a eu un gros afflux de pratiquants à cette époque-là.
Voilà, tout à fait, on avait eu un afflux exponentiel de recrues qui s'est dilaté sur la décennie. Donc l'événement a fait que... Par contre, il faut aussi que les pratiquants restent dans les structures. Mais je ne parle pas que de rugby. Hein. Je pense que si tu interviews le président du hand, il a eu le même symptôme par rapport au championnat du monde, le football exactement. Donc il y a ces flux, ces reflux. Ce qu'il faut, c'est que nos structures existent et qu'on puisse accueillir. Voilà, tout simplement.
Alors, Gilles, l'élu que vous êtes, celui qui vient du monde du ballon ovale, doit se satisfaire de ces bons résultats. On sait que le foot monte, le basket a fait un beau doublé, hein. Francis Coche était venu en parler, c'est plutôt positif.
Et tout à fait, mais ça veut dire qu'il y a du dynamisme sur la ville du Rambouillet et que le bassin, je veux dire, a de petits champions en herbe. Ça veut dire aussi que notre infrastructure est capable de les accueillir. On a un nouveau stade, on a un nouveau terrain. Et les gymnases ont été refaits, il y a un certain nombre d'investissements qui ont été faits dans ce cadre-là. Et quand on regarde les résultats sportifs, il ne faut pas non plus oublier les volleyeuses qui ont été aussi
en finale.
Donc dans un certain nombre d'indicateurs plutôt positifs. Et bon, les compétiteurs que nous sommes, on voudrait aller toujours plus haut. Hein. C'est aussi un peu le principe de la compétition. Mais on peut aussi se réjouir de la qualité d'accueil. Moi, j'ai assisté, entre autres, au tournoi de basket, j'ai aussi assisté à un tournoi de football. Quand on voit la qualité de l'encadrement, c'est aussi un point de satisfaction, à la fois les résultats sportifs, mais aussi tout le versant pédagogique, accueil et formation qui est plutôt couronné de succès.
Et puis naturellement, les infrastructures, on les a très longtemps dénigrées, puis maintenant, tout va bien aujourd'hui, hein, des terrains tout à fait remarquables.
Hein? Tout va bien, je vous remercie, je ne peux que m'en satisfaire. Non, bah effectivement, toutes les structures sont en demande de plus. Et nous, il faut qu'on, je veux dire, à la fois qu'on arrive à conjuguer les attentes et puis les possibilités, je veux dire, à la fois aussi budgétaires. En tout cas, les attentes sportives, l'équipe municipale s'y a faire. Il y a beaucoup d'anciens sportifs dans l'équipe et voilà, nous sommes en tout cas des amoureux du sport et on mettra tout en œuvre pour pouvoir offrir les structures nécessaires pour pouvoir accueillir l'ensemble des jeunes qui soient judoka, basketteurs, rugbyman, athlètes, voilà, sur l'ensemble. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a pas loin de 70 associations sportives, ce qui représente un panel de prestations hors normes. Quand on ramène ça sur un ratio d'une ville de 25 000 habitants, bon, sur un bassin de population qu'on compte beaucoup plus, parce que là aussi, la ville de Rambouillet accueille quasiment à hauteur de 50% des jeunes, et tant mieux, on peut que s'en réjouir, hein, des jeunes de l'agglo, des environs de Rambouillet, ce qui veut dire que la foire Rambouillet joue pleinement son rôle de ville-centre.
Par rapport à Chevreuse, pour le rugby, c'est un handicap, c'est un avantage?
Alors, c'est un handicap... Si les Chevreuses n'existaient pas, je ne pense pas qu'on récupérerait l'ensemble des joueurs. Parce que il y a quand même un bassin de vie. Si on regarde ça sur le bassin de vie, le bassin de vie, il est plutôt sur GIF, Orsay, Massy. Voilà. Il est plutôt par là. Quand on prend les infrastructures avec le RER, c'est pas le même, c'est pas tout à fait la 10. Donc, alors, il est bien évident que, sur un plan comptable, si Chevreuse n'existait pas, on récupérerait peut-être certains jeunes. Mais nous, on se réjouit d'avoir une structure telle que Chevreuse. Maintenant, tout réside dans savoir comment on travaille ensemble. Et je veux dire, le président est là, il pourrait en parler mieux que moi. Enfin, ça fait un certain nombre d'années qu'on a trouvé des passerelles, ne serait-ce que pour l'école de rugby, tantôt, d'autres pour les cadets, d'autres pour les juniors. Donc, quand on est à même de se rencontrer, de faire des choses ensemble, on est tout à fait, je veux dire, capable. À un moment donné, savoir, on aurait pu se poser la question, si on liait notre destin ou pas. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. En tout cas, on a tout intérêt à avoir une structure qui dynamise un territoire qui n'est pas tout à fait le nôtre, au moins qui anime la partie rugby. Et puis, les moments venus, quand il y a lieu de travailler ensemble sur les catégories que j'ai citées au préalable, on est tout à fait à même, enfin, Christian, le président, et l'équipe est tout à fait à même de se rencontrer et de bâtir, là aussi, des équipes, mais aussi de l'encadrement, de la formation, et puis d'amener, et surtout de ne pas laisser les jeunes sans compétition.
Christian, vous avez un club de supporters, il y a des fidèles qui viennent pratiquement tous les week-ends au match, ou c'est plus difficile?
C'est beaucoup plus difficile. Des fidèles, oui, il y en a. j'ai pratiqué avec eux, donc ouais. On se connaît. Ce que moi j'ai remarqué sur les jeunes cette année, puisque j'ai été voir quelques matchs le samedi après-midi ou le dimanche matin, c'est plutôt les copines et les copains, quoi. Et donc on sent une certaine attractivité d'une pratique de 22 de 44, puisque les deux équipes étaient présentes, mais c'est plutôt là où je trouve qu'il y a un peu de supporters. Pour le dimanche après-midi de 15, le match à 15h, comme on dit, voilà, il y a notre petite centaine de supporters qui est là, puisque si on fait abstraction de l'équipe précédente qui a joué en levée de rideau, il y a quelques épouses, des enfants, des frères, des sœurs, mais des supporters autant que tels, non, je pense que ça existe, c'est pas une réalité rambolitaine. Elle est plutôt vraie sur d'autres clubs sur lesquels on a été joué cette année, c'était beaucoup plus présent.
Mm-hmm. Allez, une petite page de pub, une petite pause musicale, et puis on se retrouve ici, donc à Rambouillet, dans quelques minutes.
Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Briffaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffaut Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffaut-électricité.com.
Hello les amis, je viens de me faire plaisir à la boutique Bellamy à Rambouillet. J'y trouvais déjà des looks sympas, avec barbour et un éventail de chemises pour toutes les circonstances. Et pour ce printemps, je viens de m'offrir un total look Tommy Hilfiger. C'est un bon sportswear, c'est de bonne facture, c'est pour vous aussi, j'en suis sûr. Une offre élargie de la marque Tommy Hilfiger, ça vaut le détour à la boutique Bellamy. Un centre de la guirlande de Julie, à Rambouillet.
Deep in the dark, you can keep on separate. You can get lost in the effigies.
Des animations dans les prochains mois pour dynamiser un peu le rugby sur Embouillet.
Alors, au niveau animation, on va s'appuyer sur le forum des associations le 9 septembre. Traditionnellement, et puis aujourd'hui c'est ancré vraiment dans l'animation du club, y a le tournoi André Schmitt en mai ou au mois de juin en fonction des week-ends de disponibilité liés au pont de cette fin d'année. On va sûrement... il y aura sûrement, je pense, une grosse... aujourd'hui, c'est dans les petits papiers de la Fédé, mais entre le 16 et le 24 septembre, je pense que la Fédé va faire quelque chose. Donc, il y aura, je pense, de grosses animations dans toutes les structures de rugby. Donc, voilà, ça a été annoncé hier. Vous avez la primeur.
Exécution.
Donc, 16-24 septembre, la Fédé souhaite réellement une grosse animation dans toutes les structures. Donc, on va s'atteler durant l'été à monter quelque chose. C'est dans les papiers, mais c'est aussi il faut que les projets arrivent à terme. Aujourd'hui on a un tournoi école de rugby, mais pourquoi pas un tournoi 17 ans, un tournoi 16, un tournoi 18, accueillir 5-6 équipes pour faire un peu d'animation. Et puis occasionnellement, comme on l'a fait cette année, puisqu'on a accueilli l'équipe de Genève, du Servette de Genève. Donc il y a quelques projets qui sont dans les tuyaux et j'aimerais bien qu'ils arrivent à terme et qu'on puisse faire 2-3 tournois de jeunes parce que ça manque un peu. Je pense qu'on doit pouvoir proposer à quelques équipes de venir passer une après-midi tous ensemble sur notre terrain.
Alors on l'a dit, donc forum des associations, le rugby c'est ouvert à tout le monde, hein. Tout le monde peut venir, hein. Ah oui. Il n'y a pas de problème de poids, de gabarit, il ne faut pas que les parents aient peur, hein.
Voilà, tout à fait, c'est ouvert à tous et à toutes.
Oui, oui.
J'y tiens puisque le projet est ancré dans la structure, donc c'est ouvert à tous et à toutes, de 6 à 77 ans, comme on pourrait dire, donc de 7 à 77 ans. Aujourd'hui, toutes les catégories d'âge, toutes les structures, nous pouvons accueillir. Le seul petit bémol qu'on a qui est en fin de compte la structure de 6 à 7 ans, c'est en fonction du nombre d'adhérents qu'on aura à l'aura du 1er octobre. Si on en a 10-12, la section est ouverte. Si on n'en a pas, on n'ouvre pas. Mais sinon, toutes les catégories d'âge et aux garçons et aux filles, ça, il n'y a aucun souci dans la pratique, et à la fois dans les pratiques donc à 15, à 7, donc sur les plus jeunes c'est des pratiques à 10 ou 12, et puis on a même une section à 5, donc du rugby sans contact. Donc là aussi on voudrait un petit peu que cette structure se développe, et donc là adresser une population totalement différente, c'est-à-dire des néophytes de 20 ans, des néophytes de 30 ans, des mamans, des papas, c'est l'idée, elle est là, c'est que c'est une pratique du jeu de rugby sans contact, donc vraiment des passes et de l'évitement qui permettent de passer un petit moment sympa d'une heure ensemble et plus si affinité.
Quel est le prix d'une licence et d'une cotisation, grosso modo?
Oui, ça varie entre 180 et 250 euros, c'est en fonction de l'âge et du niveau de pratique.
Et des créneaux qui se partagent donc entre le stade du Vieux-Moulin et puis le Racinet.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que toute la pratique d'entraînement est sur le plateau du Racinet et la pratique de compétition est sur le Vieux-Moulin, modulo bah, les intempéries et la pratique. On peut aujourd'hui, puisque j'avais fait valider le terrain au niveau de la FFR, le terrain synthétique, est validé pour les compétitions. Donc l'année dernière, on a fait 4 matchs, je pense, sur le terrain synthétique durant l'hiver. Donc on peut même pratiquer sur le terrain synthétique du Racinet un match de compétition. Somme toute assez agréable quand il y a des trombes d'eau et qu'on ressort à la fois propre et que le ballon n'est pas resté planté dans la boue.
Alors ça nous permet d'aborder le chapitre de l'équipe de France maintenant. Est-ce qu'on avait parlé de ce boom il y a une dizaine d'années? Est-ce que finalement le fait que le rugby français soit assez en retrait, c'est pas aussi un handicap pour vos pratiquants, pour vos pratiques?
Alors,
c'est plus un sport qui fait rêver pour les jeunes?
Je ne sais pas si c'est un sport qui ne fait plus rêver. En termes d'effectifs, sur la structure telle que Rambouillet, on ne le vit pas comme ça au quotidien. Donc, on est un peu décalé. Par contre, si on fait comptablement au niveau fédéral, c'est sûr qu'il y a un reflux d'adhérents. Donc, les questions sont posées, elles sont ouvertes. La structure fédérale trouvera sûrement les réponses. Au niveau des clubs, je pense que je peux parler à... J'espère au nom de beaucoup de mes collègues présidents, nous on fait en sorte d'accueillir le plus grand nombre et d'avoir des pratiques adaptées à nos pratiquants. Donc à la fois en compétition, en loisirs. Ce qui fait un petit peu défaut, c'est peut-être sur les plus jeunes, entre 8 et 10 ans. Mais aujourd'hui on accueille. J'ai cette petite anecdote, puisque j'étais le jour des affiliations et des inscriptions en septembre dernier, et il y avait une maman qui était extrêmement réticente par rapport à son gamin qui avait 13 ou 14 ans. Et je l'ai revu lors de la finale.
Oui.
Et elle était à la fois enjouée et son gamin était un des meilleurs sur le terrain. Donc voilà, un an après, le constat était assez bluffant. Donc je crois que je suis assez serein sur l'accueil des plus jeunes. Là où c'est encore plus compliqué, c'est vraiment sur les pré-ados et les ados. Voilà, cette période 18-17 ans, c'est compliqué parce que l'offre est pléthorique, mais il y a d'autres offres qui sont... C'est compliqué, je pense, pour un gamin de s'inscrire dans une structure parce que l'engagement, il est quand même de 10 mois. Et donc, voilà, on sait qu'on est tous... on parle de génération Z et Y. Je pense que c'est aussi la réalité.
Et ces fameuses valeurs, vous y êtes, vous l'avez dit, attachées. C'est plus difficile de les maintenir qu'avant, même dans votre sport?
C'est pas plus difficile, c'est la transmission. Donc aujourd'hui, moi, je suis un dirigeant, j'ai une cinquantaine d'années, j'ai démarré, j'avais 6 ans, j'ai pas fait d'autres sports entre guillemets. Donc voilà, je pense incarner ces valeurs, mais la difficulté, elle est d'accueillir des générations, je dirais, les unes après les autres. Aujourd'hui, un pratiquant sportif, quelle que soit la discipline, il vient picorer, et c'est normal. C'est comme on dit, la vie a changé. Donc nous, c'est à nous, en termes de structure, de s'adapter, mais par contre, ne pas renier nos traditions. Mais les traditions, c'est pas l'obsolescence. C'est réellement des choses qu'on doit faire partager. Voilà. Les valeurs rugbystiques, on y attache beaucoup de choses, mais je pense qu'elles existent vraiment. Alors, elles sont peut-être pas palpables, elles sont peut-être pas difficiles, elles sont difficiles à définir, mais à la fois la convivialité, le combat, mais la solidarité, voilà, c'est des choses simples. Mais bon, voilà.
C'est troisième mi-temps, ça reste, hein, ça.
Oui, ça reste, mais là aussi avec parcimonie, quoi. La réalité, elle a aussi changé. Hein. Aujourd'hui, un contrôle d'alcoolémie, c'est 6 points. Donc, deux fois dans l'année, vous n'avez plus votre permis. Voilà, le SAM, il existe. On en fait la promotion. Donc, c'est des choses qui, il y a 20 ans ou 25 ans, tous ceux qui nous écoutent, ça n'existait pas. Donc, voilà, les troisième mi-temps, elles existent, mais elles existent sous d'autres formes. Elles sont en comité plus restreint, elles sont pas non plus l'image de la beuverie dans l'imaginaire. Je pense que ça a un peu disparu quand même. Par contre, oui, on fait toujours des barbecues, des choses comme ça, mais voilà, si l'image du contrôle routier, elle est quand même aussi présente. Donc Voilà, il y a quand même pas typiquement là j'ai mes moins de 18 ans qui sont partis un week-end, voilà, ils sont partis à 16-17. On utilise un véhicule de l'association. Ils vont faire du jump, ils vont faire du rugby beach à la tronche sur mer. Voilà, c'est ça aussi nos valeurs. C'est-à-dire que voilà, ils viennent de passer une saison tous ensemble. Ils sont partis à 15 et puis ils vont passer un week-end de deux jours. J'ose espérer, j'en suis sûr. Voilà, il y a un week-end. Bon, dans le week-end, il y a une soirée. Donc, voilà, il y a une discothèque qui a été réservée, qui a été trouvée sur Google. Donc, ils ont prévu de passer la soirée du samedi soir en discothèque. Mais par contre, voilà, ils vont faire un peu de rugby sur la plage, ils vont aller faire de la Croix-Branche, plein d'animations autour. Voilà, c'est ça aussi.
Gilles, ça a changé, ça aussi?
Oui, ça a changé parce que, comme il le dit Christian, d'abord, il y a un phénomène de société, les gens font un peu plus attention, et puis il y a eu aussi une répression qui est quand même beaucoup plus accrue, et ça, alors là-dessus, on peut pas non plus s'en... on peut que le constater, puis aussi que s'en réjouir. Et puis je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être un peu plus responsables que l'ont été. Et effectivement, on peut pas, sous prétexte qu'on fait la fête, faire n'importe quoi. Donc à la fois, on est à la fois des sportifs, mais aussi des citoyens et des gens responsables. Et ben quand on fait la fête, on la fait dans des proportions, plus raisonnables. Et il y a rien de triste dans ce que je suis en train de dire. Et ça veut dire aussi un encadrement. Il y a un SAM. On s'organise et puis on... Tout à l'heure, je disais responsable, ça veut dire qu'on ne reprend pas le volant et on ne fait pas n'importe quoi, quoi. Donc, en cela, effectivement, ça a changé. Mais ça n'a pas changé que spécialement dans le sport. Hein. Ça a changé aussi dans la société, dans la vie. Je fais un parallèle avec, vous savez, les repas de commerciaux il y a 25 ans ou 30 ans. Ce n'était pas les mêmes repas de commerciaux d'aujourd'hui. Parce que, je veux dire, il y avait aussi l'image de l'entreprise, le contenu du repas. Et puis après, ben, on rend bien un citoyen comme un autre, on reprend un volant. Et donc là aussi, il y a une prise de conscience citoyenne, générale, qui fait qu'on ne fait plus les choses importantes. Mais par contre, je voudrais rassurer, l'ambiance est toujours aussi bonne, on fait toujours aussi autant la fête, mais je veux dire, dans des aspects légèrement différents, parce que les choses ont évolué.
Allez, question à l'équipe de France. Qu'est-ce qui va plus à cette équipe de France? Trois matchs assez nettement perdus contre l'Afrique du Sud, une troisième place dans le tournoi, une équipe qui ne suscite plus la passion, l'enthousiasme depuis pratiquement la Coupe du Monde qu'on avait commenté avec Gilles en 2011, la finale. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe de France et dans ce rugby français maintenant depuis 6 à 7 ans?
Ah, ce qui ne va pas, vaste débat. Oui. C'est vrai que les trois défaites du mois de juin, elles sont présentes. Je pense que c'est beaucoup de choses qu'il faut prendre et analyser. Les étrangers dans le top 14, le temps de jeu des plus jeunes, les compétitions des jeunes. Je pense que là, je pense que le débat il doit être ouvert. Aujourd'hui, un gamin qui a 20 ans et qui n'est pas pro et dans l'effectif équipier premier, il pratique quoi comme rugby? Tout simplement, regardez les statuts, comment c'est fait. Il n'y a pas de compétition pour ces jeunes gens. Donc le débat, il est déjà là. Donc il faut attendre 23 ans et on fait quoi pendant 3 ans? Donc ça, c'est un point pour moi qui est le fondamental. Donc l'élite, l'élu, oui, mais bon, ils sont combien? Ils sont 5, 6 au grand maximum. Mais tout le reste, les 1000 gamins qui ont entre 20 et 23 ans aujourd'hui et qui ont le niveau d'être internationaux et de jouer au plus haut niveau, donc au niveau de l'élite, ils ont quoi comme compétition? Voilà. Pour moi, c'est un point qu'il faut que la Fédé résout le plus rapidement possible pour que entre 18 ans et 23 ans, l'ensemble de l'élite du rugby français des jeunes, parce que on a une pyramide d'élite au niveau de la jeunesse. Il y a des sports études, il y a ce qu'on appelle des pôles France. Donc tout l'organigramme il existe, et ce qui fait entre guillemets la richesse du sport français tout confondu. Mais nous, on a un déficit de compétition pour ces jeunes.
C'est pas une génération moins spontanée, moins brillante qu'on l'a dit par rapport à une certaine époque.
Je suis convaincu que nos plus jeunes, ils peuvent rivaliser avec les Blacks, avec les Sudaf, avec les Australiens. La formation, elle est escalée et je pense que on peut le voir. Le jeune Penaud, à la finale, il fait des choses extraordinaires. Sur les matchs où il joue, il fait des choses énormes. Par contre, il n'y a pas de lien entre les joueurs qui jouent devant et les trois quarts. Donc là, c'est plus un projet fédéral et de contenu qui doit être proposé par le staff de l'équipe de France.
C'est même pas un problème d'entraîneur, on a beaucoup critiqué Saint-André, maintenant Noves commence à être sur la sellette.
On sait tous, on a 50 millions de sélectionneurs, donc... Noves a été, entre guillemets, un entraîneur de club exceptionnel. Son bilan, personne ne peut le mettre en défaut. Aujourd'hui, c'était quoi, il y a un an et demi, quand il a été mis en place, c'était un des meilleurs. Donc il peut apporter, il apportera le temps qu'il sera un sélectionneur. La réalité, je pense que la mise à disposition des joueurs de l'équipe de France en une décision de comité directeur de la FFR, on est passé de 35 à 40 joueurs. Donc on a mis à disposition 5 joueurs de plus. Il faut peut-être en mettre un peu plus. Il y a plein de vecteurs, de curseurs à mettre en place et faire en sorte que l'équipe, puisque là on est vraiment sur une notion majeure, que l'équipe puisse jouer en tant qu'ancien rugbyman et en tant que dirigeant de club. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une équipe de France qui joue et pas une équipe de France qui fait le sparring partner ou qui fait juste de la conservation de ballon, parce que voilà, on sait tous que il faut franchir le réseau défensif pour pouvoir marquer des essais. Et c'est celui qui marque les essais qui gagne aujourd'hui. Donc j'ai vu passer une petite révolution sur le nombre de points associés au nombre d'essais. Ça peut être la solution, mais ce n'est qu'un sparadrap si on jambe de bois. L'idée, c'est qu'il faut franchir ce fameux rideau défensif et de la meilleure façon possible.
Voilà. Oui, c'est pareil, le rugby aujourd'hui, il y a des défenses plus solides. C'est comme au foot, hein. On ferme un peu plus aujourd'hui. Hein.
Oui, on est aujourd'hui, celui qui défend le mieux gagne la rencontre. Ouais. Donc je pense qu'il faut passer un cap et dire c'est celui qui franchit le rideau défensif qui doit gagner la rencontre, point barre. Voilà. Et puis qu'il y a un artilleur hors pair. Hein. Voilà. Il faut les deux et les deux composantes. À partir du moment où je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et trouver les meilleures solutions.
J'ai eu beaucoup de travail pour le nouveau président de la Fédé, Bernard Laporte, alors.
Beaucoup de travail, parce qu'en fin de compte, comme vient de le dire Christian, ce qui cache l'arbre qui cache un peu la forêt, c'est le top 14. Donc le championnat, on peut que s'en féliciter, c'est un des meilleurs au monde. Il y a toutes les stars du rugby mondial qui se trouvent, mais avec des composantes comme, par exemple, on voit de moins en moins de jeunes Français sur le terrain. Je crois qu'il y a quelques années encore, le capitaine de l'équipe des moins de 20 ans, champion du monde, n'avait fait que 3 rencontres sur un top 14, c'est tout simplement impensable. Dans le même temps, les Néo-Zélandais contre les Lions ont des aidés qui ont 20 ans, 19 ans. Donc là aussi, il faut que l'on voit tout ça. Le président a parlé effectivement aussi de la compétition des 18-20 qui manquent pour pouvoir maintenir un haut niveau. Donc à la fois, il y a un travail à mener pour Laporte sur le top 14, limitation du nombre d'étrangers qui constituent l'équipe, sur recomposer aussi la Pro D2. Qu'est-ce qu'on fait de la Pro D2? Est-ce qu'on la maintient, je veux dire, telle qu'elle l'est? Et quel est le projet de formation? Et à travers la formation, quel est le projet de jeu qu'on accorde entre les 15-18 et 18-20 pour ces jeunes, pour maintenir sur un plan qualité, je veux dire, on sait, on a des jeunes qui peuvent rivaliser. Je pense que c'est dans l'accompagnement et dans la formation où là on pêche. Et je pense qu'on s'est souvent, je suis persuadé, qu'on a souvent mis devant le top 14, mais le top 14 a tout simplement masqué le déficit qu'il y a dans la formation et le trou qu'il y a entre le top 14 pour des deux et après les autres clubs, où là il y a un fossé qu'il faut absolument combler.
Est-ce que le fait d'avoir le mondial en 2023, ça peut bouger les choses, ça peut peut-être inciter justement à revoir un peu les choses différemment?
Alors effectivement, c'est un élément majeur dans la vie d'une fédération, le fait d'accueillir le mondial en 2023, ça c'est indéniable. Mais d'ici là, il y a quand même un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de chantiers, et moi il me semble qu'il sera difficile d'aborder tous ces chantiers bousculer un peu les habitudes. Alors, l'idée n'est pas de tirer un trait sur tout ce qui s'est fait. Le rugby français ne disparaît pas. Mais enfin, force est de constater que les Argentins nous ont dépassés. L'Écosse ou l'Irlande, qui étaient des nations mineures, chaque année nous mettent en difficulté. Et l'Irlande, par exemple, comme le Pays de Galles, ont gagné à plusieurs reprises le Grand Chelem. Je ne parle même pas des Anglais qui nous toisent. Et puis on voit, par exemple, ça fait 10 ans qu'on est incapable de battre les Sud-Africains. Donc là, il y a un problème de fond. Un problème de fond que Guy Neves ne va pas régler un certain nombre de choses. Et là aussi, l'équipe de France, on doit savoir qu'est-ce qu'on fait de l'équipe de France. Donc plusieurs choses à aborder, l'accompagnement des joueurs, le nombre de matchs joués, la disponibilité des joueurs qu'on doit donner, je veux dire, à l'entraîneur, parce que c'est pas en voyant les gars 3 semaines par an ou 4 semaines qu'on va changer. Et on peut aussi se poser la question, mais là dans les moindres, dans les petits, plus grands détails, de cette fameuse tournée, je veux dire, quelle est la nécessité d'une tournée, quel est le projet, quel est
le contrat sont signés 3 ans avant. Hein.
Quel est le sens de cette tournée-là, si ce n'est que des joueurs un peu désabusés, fatigués, et sur lesquels on bâtit pas. Voilà. Parce qu'à la limite, une tournée, ça pourrait être, on accompagne un certain nombre de joueurs, on fait des tests, et on les accompagne. Aujourd'hui, la détection est telle que tous les joueurs qu'on a emmenés, on les connaissait. On connaissait à la fois leurs points faibles et leurs points forts. Donc, on n'a pas eu plus d'infos que ça. Voilà. Maintenant, ce qui peut aussi changer à la fédération, et là, il fera regarder ça avec beaucoup d'intérêt, Laporte, est président de la fédération, hein. Il n'est pas entraîneur en équipe de France. Voilà, je crois. Alors c'est intéressant d'avoir un nouveau président qui occupait ce poste-là.
Surtout qu'il a tout. Il a été entraîneur de club, entraîneur national, même ministre. Donc ça peut aider quand même.
Ça peut aider. Ouais. Ça peut être un plus. De toutes les façons, ça sera un plus dans le débat. Ça, c'est évident. Mais le piège, c'est pas de cumuler les postes. Voilà. De ne pas cumuler les postes. Maintenant, Guinoves, Christian vient de le dire, c'est un entraîneur hors pair, 19 saisons d'affilée en demi-finale, avec un score connu sans pareil. Donc aujourd'hui, il n'a pas perdu son rugby. Il n'est pas devenu très bon à mauvais, ça c'est en 2 ans de temps. Tout simplement, c'est que les conditions pour avoir une équipe de France performante ne sont pas requises. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est effectivement un contrat avec les joueurs, un certain nombre de joueurs mis à disposition de la Fédé, de se rapprocher un peu plus de ce que font les fédérations de l'hémisphère sud, et puis surtout d'avoir les temps de jeu moindres pour pouvoir avoir des joueurs un peu plus compétitifs.
Très bien, merci Gilles d'avoir été avec Christian, nos derniers invités de cette saison. Bonnes vacances, on se retrouve à la rentrée, plein de projets.
Bah bien sûr, alors ça, des projets, ça en manque pas. des projets, ça en manque pas. Et bien sûr, des projets à la fois sur le sport en général, et puis bien sûr, tout particulièrement, des projets sur le sport, je veux dire, sur le rugby. Et puis, merci à toute l'équipe RVE qui, chaque année, tout au long de nos compétitions, sont là pour à la fois être support, les témoigner, et puis vous parler de nous. Donc, on peut qu'on vous en remercie, parce que l'équipe est à la fois sympathique et compétente.
Nous sommes là pour ça. Bah, merci. Christian, le mot de la fin.
Oui, merci de nous avoir accueillis. Et je vais abonder dans le sens de Gilles. Merci à la radio de promouvoir le sport local, puisque c'est vrai qu'animer une émission tous les dimanches sur le sport local, je pense que c'est quelque chose d'important. Merci à vous.
Voilà, on fait toujours avec plaisir. Vous le savez bien, c'est la passion dans le sport. Allez, un dernier break et puis on conclura cette émission.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Bienvenue au Royal de Gazeran à Rambouillet, zone du Bel Air, face au magasin Feu Vert. Votre restaurant vous accueille dans un nouveau cadre convivial, avec un espace enfant, pour un moment entre amis ou en famille, 7 jours sur 7, midi et soir. Le Royal de Gazeran vous propose son buffet à volonté. Entrée, plat, dessert tous les jours. Et aussi la livraison à domicile sur royaldegazeran.fr. Le Royal de Gazeran, zone du Bel Air, 7 rue Gustave Eiffel à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 78 88. Bienvenue au Savoyard, 46 rue d'Angivillers à Rambouillet. Depuis 30 ans, le restaurant Le Savoyard propose une cuisine traditionnelle française et aussi des spécialités savoyardes. Le tout fait maison. Alors pour un moment convivial entre amis ou en famille, votre restaurant Le Savoyard vous accueille du mardi au samedi soir. Le Savoyard, 46 rue d'Angivillers. Téléphone 01 34 83 35 77.
Je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Je suis né pour n'être qu'avec toi.
Naturellement, on va remercier tous nos très nombreux invités hein, qui sont venus au micro de Tribune Sport et Tribune Foot durant cette saison, hein, que cet été dans nos studios, en enregistré ou par téléphone. Naturellement, restez-nous fidèles, hein, vous pourrez réécouter toutes ces émissions en podcast, hein, tous les temps forts de cette belle année sportive. Et puis on va remercier aussi nos techniciens, Victor, Jean-Pierre et Robin. Ça n'a pas toujours été facile, il y a eu parfois des petits ratés, des petits bugs, mais le direct c'est ça et c'est aussi un peu l'authenticité herbeuse. Voilà, merci à tous et à tous, bonnes vacances, et puis écoutez, merci de votre immense fidélité depuis plus de 29 ans, et puis on se retrouve en principe à la rentrée. Bon dimanche à toutes et à tous, à très bientôt, salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.